أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Par les Banu Qurayda lors de la bataille de l'Ahzab et le siège de leur forteresse après la bataille de l'Ahzab, afin qu'ils soient punis pour avoir lésé les musulmans et pour avoir violé leur pacte avec les musulmans. Voici les détails supplémentaires à ce propos. Lorsque le siège s'est endurci, les Banu Qurayda sont sortis de leur forteresse pour se soumettre au verdict du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il existe différents récits sur la durée du siège des Banu Qurayda. Certains évoquent 10 jours, d'autres 15 jours, certains évoquent 14 jours. On trouve également mention de 25 jours. Puisant dans différentes sources historiques, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a déclaré que ce siège a duré environ 20 jours. Sa'd bin Mu'adh avait été nommé arbitre pour juger ce cas. Voici les détails à ce propos. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on emprisonne les juifs. Ils ont été ligotés avec des cordes. Muhammad bin Maslama était responsable de cette tâche. Les femmes et les enfants ont été extraits des forteresses et ont été placés séparément. Et Abdullah bin Salam était responsable de leur surveillance. Leurs armes, leurs biens et leurs vêtements qui étaient dans leur forteresse ont été réunis. On y a découvert 1500 épées, 3000 armures, 2000 lances, 1500 boucliers de cuir et des marchandises en grand nombre. Ils ont également trouvé de nombreux récipients contenant du vin et des substances enivrantes qui ont été jetés, et un grand nombre de chameaux et de bétail ont été réunis. Les notables parmi les Aws se sont présentés au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit ceci: « Ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Qurayda sont nos alliés. Nos alliés, regrettant amèrement leur trahison, sont dans la détresse. Aussi, pardonnez-leur pour notre bien. » Le saint prophète Mohammed Pessoa soit lui est demeuré assis silencieux, tant et si bien que l'insistance des Aws a pris de l'ampleur. Et tous les Aws se sont présentés et ont plaidé en faveur des Banu Qurayda. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: serez-vous satisfait si l'un des vôtres rend un verdict à leurs propos? Tous ont répondu à l'unisson certainement. Et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Sa'd bin Mu'adh rendra le verdict à ce sujet. Selon un autre récit, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: choisissez la personne de votre choix parmi mes compagnons pour rendre ce verdict. Sur ce, ils ont choisi Sa'd bin Mu'adh. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était satisfait de leur choix. Sa'd bin Mu'adh était le chef des Aws et il était l'allié des Banu Qurayda. Ainsi, non seulement les Aws étaient rassurés, mais ils étaient aussi ravis, car ils se disaient que l'affaire était désormais entre leurs mains. Et selon la coutume des Arabes, il fallait protéger ses alliés. Cependant, le décret divin en avait décidé autrement, et le cœur pur et sincère de Sa'd avait placé Dieu et son messager, paix soit sur lui, au-dessus de tous les liens et au-dessus de toutes les relations. Sa'd se trouvait alors dans la mosquée de Médine, dans la tente de Rafida al-Aslamiyya. Elle soignait les blessés et elle avait installé une tente dans la mosquée. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait placé Sa'd dans cette tente afin de superviser ses soins médicaux, afin de pouvoir aussi lui rendre visite. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confia l'affaire à Sa'd bin Mu'adh. Les membres du clan des Aws vinrent le trouver et ils le placèrent sur un âne dont la selle était faite d'écorce de palmier et recouverte d'un tapis en cuir. La bride était également faite de fibres de palmier. Sa'd était un jeune homme fort et robuste. Les gens s'assemblèrent autour de Sa'd et lui dirent « Ô Abu Amr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous a confié l'affaire des alliés des Aws, afin que vous agissiez avec bonté envers eux. Faites donc preuve de bienveillance à leur égard. » Beaucoup d'autres personnes se joignirent à eux, mais Sa'd garda le silence. Lorsque les gens insistèrent davantage, Sa'd déclara « Le temps est venu où je ne me soucie plus du blâme de quiconque pour la cause d'Allah. » Sa'd se rendit auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens étaient également assis auprès de lui. Sa'd bin Mu'adh arriva, et comme le rapportent Bukhari et Muslim, il s'approcha de la mosquée où se trouvait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mosquée qui avait été préparée pour la prière lors du siège des Banu Qurayda. Et en le voyant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Levez-vous pour rendre hommage à votre chef. » Selon un autre récit, il a déclaré « Levez-vous en honneur du meilleur des vôtres. » Les Banu Abdul Ashal disent « Nous avons formé deux rangées pour Sa'd. Chacun d'entre nous le saluait jusqu'à ce qu'il atteigne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Ô Sa'd, juge entre eux. » Il répondit « Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam sont plus aptes à juger. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « En vérité, Allah t'a ordonné de juger concernant leur cas. » Les Aws ont déclaré « Ô Abu Amr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous a confié le jugement de vos alliés. Soyez donc bons envers eux et prenez en considération leur malheur. » Sa'd bin Mu'adh a déclaré « Êtes-vous d'accord avec mon jugement concernant les Banu Qurayda ?» Ils répondirent « Oui, nous sommes d'accord avec votre jugement. » Même lorsque vous n'étiez pas parmi nous, c'est-à-dire que nous avions proposé votre nom même en votre absence. Vous avez tout pouvoir de notre part, et nous espérons que vous ferez preuve de bienveillance envers nous comme d'autres l'ont fait en faveur de leurs alliés, les Banu Qaynuqa. Et nous vous préférons à tous. Et nous avons grand besoin de votre jugement aujourd'hui. » Sa'd bin Mu'adh a répondu, « Je ferai de mon mieux. » Et ils ont demandé, « Que voulez-vous dire par cela? Je ferai de mon mieux. Saad a déclaré, « Je jure par l'alliance d'Allah, mon jugement sera-t-il exécuté ?» Il leur a demandé cela afin qu'ils puissent confirmer cela. Ils ont répondu « Oui ». Ensuite, Saad s'est tourné vers l'endroit où se trouvait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par respect pour la majesté du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Saad ne s'adressa pas directement au saint prophète, paix soit sur lui, et demanda « Et ceux qui sont assis ici font-ils également cette promesse ?» Il indiqua dans la direction du saint prophète, paix soit sur lui, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres ont déclaré « Oui ». Alors Saad a déclaré « Je juge qu'il faut tuer leurs hommes adultes, emprisonner les femmes et les enfants, diviser leurs biens et donner leur maison aux émigrés et non aux ansars. » Les ansars ont déclaré « Nous sommes leurs frères, nous avons été avec eux. » Il a répondu que « Je veux qu'ils soient indépendants de vous. » C'est-à-dire que les émigrés puissent agir librement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Saad, ton jugement est conforme au jugement d'Allah, jugement qui a été décrété dans les sept cieux. » Selon un hadith, il est rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré à propos du jugement de Saad, « L'ange m'a informé de ce même jugement au moment de la prière de l'aube. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a écrit ceci à ce propos. Après un siège d'environ 20 jours, ces juifs malheureux ont accepté de sortir de leur forteresse pour être jugés par le verdict d'un homme qui, bien qu'étant leur allié, ne trouvait aucune pitié dans son cœur en raison de leurs méfaits. Et bien qu'ils soient un exemple de justice et d'équité, ils ne possédaient pas la même compassion et la même tendresse au cœur que celle présente chez l'homme qui était le Rahmatulil Alamin, la miséricorde pour toute l'humanité, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, la tribu des Haus était une vieille alliée des Banu Qurayda, et à l'époque, Sa'd bin Mu'adh était le chef des Haus. Il avait été blessé lors de la raswa du fossé, et suivait un traitement médical dans le véranda de la mosquée de Médine. Saad est arrivé à cheval, et en chemin, certains membres de la tribu des Haus l'ont exhorté avec insistance, et ce à plusieurs reprises, en disant que les Qurayda sont nos alliés. Tout comme les Khazraj ont été indulgents envers leurs alliés, les Banu Qaynuqa, vous aussi faites preuve de clémence envers les Banu Qurayda, et ne leur infligez pas une punition sévère. Saad bin Mu'adh a écouté tout cela en silence. Mais lorsque l'insistance des Haus a augmenté, Saad a déclaré « À présent, Saad ne peut se soucier du blâme de quiconque qui le blâmera dans une affaire de vérité et de justice. » En entendant cette réponse, les gens se sont tus. Saad s'est présenté au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit aux compagnons, « Levez-vous pour votre chef et aidez-le à descendre de sa monture. » Saad est descendu de sa monture et il s'est avancé vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est adressé à lui en disant, « Ô Saad, les Banu Qurayda ont accepté ton jugement. » Et ils accepteront toute décision que tu prendras à leur sujet. » Là-dessus, Saad leva les yeux vers les membres de sa tribu, les Haus, et il leur demanda ceci. Il leur demanda, « Êtes-vous tous d'accord en présence d'Allah et de son pacte à mettre en œuvre la décision que je prendrai concernant les Banu Qurayda ?» Les gens ont déclaré « Oui, nous le promettons. » Ensuite, Saad, en indiquant du doigt l'endroit où se trouvait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé « Et celui qui est ici promet-il également d'agir conformément à ma décision ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Oui, je promets de le faire. » Après avoir appris ses promesses, Sa'd a prononcé son jugement qui était le suivant. Les combattants de parmi les Banu Qurayda devaient être exécutés, leurs femmes et leurs enfants devaient être faits prisonniers, et leurs biens devaient être distribués aux musulmans. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu ce jugement, il a dit spontanément, « Tu as jugé selon le jugement d'Allah, c'est-à-dire ce jugement de ta part est un décret divin qui ne peut être changé. » Et par ces mots, il voulait dire que le jugement concernant les Banu Qurayda s'était produit dans des circonstances où l'intervention divine était clairement visible et par conséquent sa compassion ne pouvait l'empêcher. Ceci était en effet vrai, car les Banu Qurayda avaient demandé qu'Abu Lubaba leur soit envoyé et des paroles totalement dénuées de fondement étaient échappées de la bouche d'Abu Lubaba. Par conséquent, les Banu Qurayda ont refusé d'accepter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme leur juge, en pensant que la tribu des Aws va les traiter avec indulgence car ils étaient leurs alliés. Et sur ce, ils ont nommé Sa'd bin Mu'adh, le chef de la tribu des Aws, comme leur arbitre. De plus, Sa'd était si résolu dans la question de la justice et de l'équité que les sentiments de parenté et d'alliance ont été complètement effacés de son cœur. De plus, avant d'annoncer son verdict, Sa'd avait obtenu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la promesse ferme que cette décision sera pleinement appliquée. Tous ces faits ne pouvaient pas être une coïncidence. En vérité, à la base de ces événements se trouvait un décret de Dieu, et ce verdict était celui de Dieu et pas celui de Sa'd. On rapporte que lorsque Sa'd a pris sa décision, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine un jeudi, le 9 du mois de Dhul-Hijja. Selon un autre récit, il serait revenu le 5 de ce même mois. Ibn Sa'd mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine un jeudi, le 7 du mois Dhul-Hijja, et il a ordonné que les prisonniers soient amenés à Médine. Conformément à l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les prisonniers ont été conduits à la maison de Usama bin Zayd. Les femmes et les enfants ont été amenés chez Ramla bint Harith. On rapporte également qu'ils ont tous été emprisonnés chez Ramla bint Harith. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'apporter des dattes pour eux et ces dattes ont été dispersées sur le sol. Les gens ont apporté une quantité innombrable de dattes et toute la nuit les juifs ont mangé à leur aise. Le saint prophète a ordonné d'apporter les armes, les équipements et les vêtements à la maison de Ramla et les chameaux et les chèvres ont été laissés paître sous les arbres. Mazrat Mirza Bashir Ahmad Sab déclare « Il semble qu'en raison de la trahison, de la rébellion, de la sédition, du désordre et du meurtre et de l'effusion de sang des Banu Qurayda, le verdict avait été déjà rendu par la Cour de justice céleste, selon lequel leurs combattants devaient disparaître de la surface de la terre. Les instructions divines initialement données au saint prophète Mohammed paix soit sur lui concernant cette razwa établissent également qu'il s'agissait d'un décret divin. Cependant, Dieu n'a pas voulu que ce verdict soit prononcé par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cette raison, a tenu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui complètement à l'écart de cette décision par des manifestations très complexes de son pouvoir. Et il a fait annoncer ce verdict par Sa'd bin Mu'adh. De plus, cette annonce a été faite de telle manière que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne pouvait plus influencer cette décision car il avait déjà promis qu'il allait se conformer au verdict de Sa'd bin Mu'adh dans son intégralité. Certains non-musulmans critiquent à tort le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et empoisonnent parfois l'esprit de nos jeunes en affirmant que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a commis une injustice à l'encontre des Banu Qurayda. La réponse à cela est claire. Ce n'est pas le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui a pris cette décision. Allah a fait en sorte que le jugement soit confié à leur allié et celui-ci a pris un serment solennel auprès du saint prophète paix soit sur lui. En outre, étant donné que l'influence de cette décision ne se limitait pas à la seule personne du saint prophète, paix soit sur lui, et qu'elle concernait tous les musulmans, collectivement, le saint prophète, paix soit sur lui, n'a pas considéré qu'il avait le droit de modifier ce verdict par sa propre opinion, même s'il penchait fortement en faveur de la miséricorde et du pardon. Et c'est cette même puissance divine qui a poussé l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à prononcer spontanément ces mots au Sard. Ton verdict semble être un décret divin que personne n'a le pouvoir de modifier. En prononçant ces paroles, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est levé discrètement et est retourné vers Médine. Et son cœur était affligé à l'idée qu'une nation dont il espérait vivement qu'elle allait embrasser l'islam était privée de la foi et condamnée à la colère et au châtiment de Dieu en raison de ses mauvaises actions. Et c'est peut-être à cette occasion que le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a prononcé ces paroles suivantes avec un grand regret. Si seulement 10 hommes juifs, c'est-à-dire 10 hommes influents, avaient cru en moi, j'aurais espéré auprès de Dieu que toute cette nation allait m'accepter et cette nation aurait été protégée du châtiment divin. Au moment de partir, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de séparer les hommes des femmes et des enfants de parmi les Banu Qurayda. Ces deux groupes ont été amenés à Médine séparément et rassemblés en 2 endroits distincts. Conformément aux instructions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, dont beaucoup étaient peut-être eux-mêmes affamés, ont fait en sorte qu'une grande quantité de fruits soit apportée aux Banu Qurayda pour qu'ils en consomment. Et il est écrit que le peuple juif a passé toute la nuit à manger des fruits. Le matin venu, l'ordre a été donné de creuser des fossés dans un marché de Médine allant jusqu'à la maison d'Abu Jaham al-Adawi. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est venu ensuite accompagné de quelques compagnons. Il a fait venir les hommes de parmi les Banu Qurayda. Ils étaient sortis en groupe et ils étaient jetés dans cette fosse pour être exécutés. Lorsque les Juifs étaient emmenés, ils ont demandé à Ka'b bin Asad : que penses-tu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'intention de faire ? Ka'b bin Asad a répondu : il va faire ce qu'il vous déplaît. Les Juifs ont demandé à Ka'b bin Asad : que penses-tu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'intention de faire ? Il a répondu : ce qui vous déplaît. On a donc demandé à Ka'b bin Asad : que penses-tu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'intention de faire ? Il a répondu : ce qui vous déplaît. Malheur à vous, vous ne comprenez rien. Celui qui appelle ne lâche pas prise et celui qui part ne revient pas. Pour lui, par Allah, c'est l'épée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune chance de vous sauver. Il a dit que je vous ai invité à autre chose, mais vous avez refusé. Les Juifs ont répondu : ce n'est pas le moment des reproches. Si nous avions suivi ton conseil, nous n'aurions pas rompu l'alliance qui nous liait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khouy ibn Akhtab a déclaré quant à lui : laissez ces reproches, rien ne pourra plus vous sauver. Préparez-vous à la mort par l'épée. Ali et Zubair bin al-Awwam ont été chargés d'exécuter les Juifs. Selon certaines versions, certains prisonniers ont été distribués à différents compagnons pour être exécutés. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib explique ceci à propos de cet événement. Il déclare que le lendemain, dans la matinée, le verdict de Sa'd bin Mu'adh devait être mis à exécution. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné quelques hommes compétents pour accomplir cette tâche. Ensuite, il s'est tenu à proximité, de sorte que si des conseils étaient nécessaires pendant que le verdict était prononcé, il pouvait les donner immédiatement. Une autre raison était qu'il pouvait immédiatement prendre une décision si quelqu'un faisait appel à la miséricorde. Bien que le verdict de Sa'd ne puisse pas faire l'objet d'un appel en général, en sa qualité de roi ou de chef de l'exécutif d'une démocratie, Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait certainement le droit d'entendre un appel concernant une personne spécifique pour des raisons individuelles. Par compassion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également ordonné que les coupables soient exécutés séparément les uns des autres. C'est-à-dire que lorsqu'un coupable était exécuté, l'autre ne devait pas être présent à proximité. Ainsi, chaque coupable a été amené séparément et exécuté selon le verdict de Sa'd. Lorsque Rui ibn Akhtab, le chef des Bandu Nadir, a été amené pour être exécuté, il a regardé le saint prophète Mohammed Pessoa sur lui et il a déclaré « Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je ne regrette pas de m'être opposé à toi. Cependant, la vérité est que celui qui abandonne Dieu est abandonné par Dieu. » Ensuite, il a regardé le peuple et il a déclaré que rien ne peut être fait face à l'ordre de Dieu. Ceci est son ordre et son décret. Lorsque Ka'b bin Asad, le chef des Banu Qurayda, a été apporté pour être exécuté, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a implicitement exhorté à embrasser l'islam. Ka'b bin Asad a répondu « Ô Abul Qasim, j'aurais bien accepté cela, mais les gens diront que j'ai peur de la mort. Laissez-moi mourir dans la religion juive. » Un autre juif nommé Rifa'a a imploré humblement une musulmane au cœur tendre d'intercéder en sa faveur, afin qu'il soit épargné. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à Rifa'a grâce à l'intercession de cette musulmane. Ainsi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à quiconque demandait la clémence, ce qui prouve que le saint prophète Mohammed lui était contraint par le verdict de Sa'd, sans quoi son cœur n'était pas enclin à exécuter les Juifs. Ainsi donc, ceci est une réponse très claire à l'accusation selon laquelle le saint prophète Mohammed lui aurait commis une injustice. Les événements se sont déroulés de cette manière. Les hommes des Banu Qurayda ont été exécutés jusqu'à ce que le messager d'Allah, paix soit sur lui, en ait fini avec eux et qu'ils aient été tués jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, les fossés ont été remplis de terre. Tout cela s'est passé sous les yeux de Sa'd bin Mu'adh. Allah a exaucé sa prière et a rafraîchi ses yeux. Selon les récits historiques, seule une femme avait été exécutée parmi les Banu Qurayda. Il s'agissait de Nabata, l'épouse d'un certain Hakam des Banu Qurayda. Elle avait jeté une pierre sur un compagnon musulman nommé Khalad, qui était assis tout près du mur du fort des Banu Qurayda. Elle fut tuée en punition de ce meurtre. Cependant, certains biographes ne sont pas d'accord avec cette version des faits. Selon eux, cette histoire s'est mêlée à d'autres récits concernant les Banu Nadir ou Khaybar. Et d'autres indices suggèrent que l'exécution de cette femme n'est pas avérée. En tout cas, seul Allah connaît la vérité. Il y a également mention d'un incident concernant une certaine Rehana bint Zayd. Les femmes et les enfants prisonniers des Banu Qurayda ont été distribués aux musulmans de Médine. Parmi eux se trouvait Rehana bint Zayd, une femme des Banu Nadir, mariée à un homme nommé Hakam parmi les Banu Qurayda. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a choisi pour lui. Selon certains, cette femme avait embrassé l'islam, tandis que d'autres affirment que le saint prophète paix soit sur lui l'avait gardée comme esclave ou que le saint prophète paix soit sur lui l'aurait épousée. Il y a différentes versions qui divergent quant à la vérité. La lumière sera faite à ce sujet plus loin. En tout cas, une étude approfondie de cette narration révèle que les biographes ont commis ici une erreur. En effet, cette histoire est soit totalement inventée, soit, si elle contient une part de vérité, elle se limite au fait que le saint prophète Mohammed paix soit lui l'avait libérée et que cette femme était retournée chez elle où elle est décédée. Et même si, par hypothèse, on acceptait cette narration, le saint prophète Mohammed paix soit lui l'aurait épousée et ne l'avait pas gardée comme esclave. C'est ce que Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a détaillé dans son ouvrage sous le titre intitulé « Le faux récit de Rehana ». Il déclare que certains historiens écrivent que parmi les captives des Banu Qurayda, il y avait une femme nommée Rehana que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait gardé comme esclave. Sur la base de cette narration, Sir William Muir a proféré des accusations très blessantes contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la vérité de cette narration est complètement fausse et sans fondement. Tout d'abord, la correction apportée à la narration de Bukhari où il est mentionné que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a distribué les captives des Banu Qurayda aux compagnons réfute cette version. Si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait choisi une captive pour lui-même, cela aurait dû être mentionné dans le récit d'Al-Bukhari, mais il n'y a pas trace de cela. De plus, d'autres narrations attestent clairement que Rehana faisait partie des captives que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait libéré par grâce et qu'elle avait ensuite quitté Médine pour rejoindre sa famille qui se trouvait parmi les Banu Nadir, et il est demeuré là-bas. Allama ibn Hajar, l'un des plus grands érudits de l'islam, a authentifié cette version. Mais même si l'on admettait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris Rehana sous sa protection, il s'agirait alors certainement de sa femme et non de son esclave. Ainsi, les historiens qui ont apporté ce récit concernant Rehana, selon lequel le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait prise sous sa protection, eh bien, ces historiens ont souvent précisé qu'il l'avait libérée et qu'il l'avait ensuite épousée. Ibn Sa'd rapporte un récit de Rehana elle-même dans lequel elle déclare que le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait libérée. Et après s'être converti à l'islam, le saint prophète l'avait épousée et que sa dot avait été fixée à 12 awqiya et 40 dirhams. Ibn Sa'd a explicitement rejeté l'autre récit sur lequel Sir William Muir s'est basé, le qualifiant de faux et contraire à la réalité. Néanmoins, tous ces récits sont douteux et il est écrit que telle est la conclusion des savants. En somme, comme l'atteste le récit d'Al-Bukhari et comme l'a précisé Al-Isaba, le saint prophète, paix soit lui, n'a pas pris Rehana sous sa protection, mais l'a libérée. Elle est ensuite retournée auprès de sa famille et a vécu une vie paisible. Deuxièmement, même si l'on admettait cette narration selon laquelle le saint prophète, paix soit lui, l'aurait prise sous sa protection, il aurait alors certainement libéré Rehana et l'aurait épousée et ne l'aurait pas gardée comme esclave, comme le rapportent certains récits ou elle-même en témoignent. Quant à la véracité de ces récits, seul Allah en est au courant. De plus, il faut garder à l'esprit qu'il y a tellement de divergences dans les récits concernant le nom, la généalogie et la tribu de Rehana qu'il n'est peut-être pas déraisonnable de douter de son existence même, surtout lorsqu'on considère qu'elle est présentée comme l'épouse d'un personnage historique parmi les plus célèbres au monde. En tout cas, Allah connaît la vérité. Voici le détail de la distribution des butins. Lorsque le butin a été rassemblé, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a divisé le butin en parts égales. Lors de cette bataille, il y avait 36 chevaux. Pour chaque cheval, deux parts étaient attribuées, une pour le cavalier et une pour le fantassin. Il y avait 1000 femmes et enfants prisonniers. Avant de distribuer le butin, le messager d'Allah, paix soit lui, a prélevé le khums, c'est-à-dire le cinquième. Il a divisé les prisonniers en cinq parts et il en a pris un cinquième. Il les libérait et les offrait en cadeau ou en faisait des serviteurs. De même, il a prélevé le cinquième des dattes et le cinquième de chaque objet. Ensuite, les parts ont été distribuées. Un tirage au sort était effectué pour chaque part et la part qui sortait pour le cinquième était prise par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait nommé Mahmiya ibn Jaza al-Zubaydi comme responsable du cinquième. Les quatre parts restantes ont été distribuées par la suite. Le saint prophète paix soit lui a également fait des dons aux femmes qui avaient participé à la bataille. Parmi ces femmes musulmanes, on comptait Safiya binti Abdul Muttalib, Umm Amara, Umm Salit, Umm Alaya al-Ansariya, Soumaïra bint Kaïs, Oumé Sarah bint Mouad et Kabsha bint Rafi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Sa'd bin Obada avec un groupe en Syrie pour vendre les biens du Khums, c'est-à-dire les prisonniers et les autres objets, afin d'acheter des armes et des chevaux en échange. Selon un récit, Othman bin Affan et Abdurrahman bin Auf ont acheté une partie, mais selon une autre opinion, tous ces prisonniers ont été gardés à Médine et n'ont pas été envoyés ailleurs. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a libérés progressivement par acte de bienfaisance, comme l'a établi Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb dans ses recherches à partir de différentes sources historiques. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb écrit à ce propos: concernant les enfants et les femmes qui avaient été capturés conformément à la décision de Saad, certains récits indiquent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les avait envoyés dans le Nejd, où certaines tribus du Nejd les avaient rachetés, et que les musulmans avaient utilisé cette somme pour acheter des chevaux et des armes pour leurs besoins militaires. Cela n'est pas surprenant si cela s'est produit, car les tribus du Nejd et les Banu Qurayda étaient des alliés, et quelques jours seulement avant la bataille des Banu Qurayda, eh bien, les tribus du Nejd avaient combattu ensemble contre les musulmans lors de la bataille des confédérés. En fait, c'est à l'instigation des habitants du Nejd que les Banu Qurayda s'étaient révoltés contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était donc pas étonnant que les habitants du Nejd aient racheté les prisonniers de parmi les Banu Qurayda des mains des musulmans. Cependant, les récits authentiques indiquent que ces prisonniers sont restés à Médine et qu'ils n'ont pas été emmenés ailleurs et que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui les avait distribués sous la surveillance de différents compagnons comme à l'accoutumée. Certains d'entre eux ont ensuite payé leur rançon pour être libérés, tandis que d'autres ont été libérés par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui par acte de bienfaisance. Par la suite, ces personnes se sont converties à l'islam de leur plein gré. Parmi eux, on trouve Atiyah al-Quraidi, Abdurrahman bin Zubair bin Batiyah. On trouve aussi mention de Ka'b bin Sulaym et de Muhammad ibn Ka'b, dont les noms sont restés dans l'histoire. Ils sont tous devenus musulmans, et le dernier cité, Muhammad bin Ka'b, est devenu un musulman éminent. Qu'il s'agisse de la distribution ou de la vente de ces femmes captives, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donné un ordre qui mérite d'être inscrit en lettres d'or dans l'histoire, révélant l'étendue de sa miséricorde et sa bienveillance envers les femmes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: quiconque reçoit une femme, qu'elle soit distribuée ou vendue, et que cette femme ait un enfant en bas âge, on ne va pas séparer cet enfant de sa mère jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Il en va de même pour deux petites sœurs. Elles ne doivent pas être séparées jusqu'à leur majorité. Telle était l'œuvre de celui qui avait été envoyé comme miséricorde envers les mondes. Telle était sa bienveillance envers les femmes et les prisonniers et même envers ses ennemis. Pourtant, quel est le sort des musulmans aujourd'hui? Aujourd'hui, les musulmans chassent les gens de leur maison. Ils tuent les gens au nom d'Allah et de son messager. Et le résultat est la perte de leur propre honneur. Qu'Allah accorde à ces musulmans la sagesse et la compréhension.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ونذكر الله أكبر.